cours d'il y a 1500 ans de l'ermite de Saint-Nélus. Enfin, comme quelqu'un a la bonté de le photocopier, tout le monde a droit à un. Et en même temps, surtout, il lira le message du pape Jean-Paul II pour le 1er janvier de cette année, le 1er janvier de la première année du Triduum, de la préparation à l'entrée dans le troisième millénaire. Voilà. Et comme on se prépare à l'entrée dans le troisième millénaire, il est tout à fait normal que le pape donne un message vertical. Saint-Père, il fait nomenum, d'accord, un premier élément, un deuxième élément, un troisième élément, un quatrième élément. Et puis à un moment donné, tiens, critère oblique, on recommence. Hop, critère oblique, pout, et puis ça petit, réduction eidétique de la forme. Bon, n'est-ce pas? Et alors bon, au bout de 8 pages, je veux dire, tu arrives à sortir le lièvre, tu vois, hop. Quand tout le monde s'est endormi, il sort le lièvre, tu vois. Et s'il avait sorti le lièvre au départ, tout le monde tirait la mitrailleuse lourde, tu vois, sur le pape. Alors, il endort tout le monde avec la réduction eidétique de la forme. Ça, c'est extraordinaire, la méthode phénoménologique. C'est comme moi, comme vous savez, comment je fais avec vous. J'amène les choses lentement. C'est au bout de 3 heures que, plaf, on sort le truc, tu vois. C'est pour les profs que je dis ça. C'est la pédagogie. Parce que les profs, la pédagogie, c'est important. Parce que pour faire passer quelque chose, il faut savoir qu'on est rétif à l'enseignement. On est rétif à l'enseignement. Pourquoi? Parce qu'à cause du péché originel, il y a un Yetzerara, n'est-ce pas? Yetzerara. Ah, un petit peu de culture générale, hein? Hein? Le Yetzerara. Le Yetzerara. Hein? Vous savez ce que c'est, ce truc élémentaire qu'on apprend la première année du catéchisme, n'est-ce hein, pas? On a tous le Yetzerara, tous. Pas à l'âge de 6 ans, vous avez tous appris ça. On a le Yetzerara, à la suite du péché originel. Hein? Yetzerara. C'est extraordinaire, ça. Comme je vous ai expliqué la dernière fois, nous avons le mauvais penchant. Voyez? Le mauvais penchant. On a une tendance vers. Vous voyez, c'est une complication, Yetzer. C'est un petit peu, c'est proche des Eretz, ça, un peu. R, vous voyez, ça fait un R, et puis on met le Eretz après. Eretz, le Eretz, c'est la terre. Vous voyez, le mauvais penchant, ça traduit. On traduit, le péché originel a mis en nous un foyer de concupiscence, si vous voulez, qui fait que notre esprit, notre liberté, notre tendance instinctive, au lieu d'aller directement dans l'image et ressemblance de Dieu, dans la paternité, dans la filiation, dans la paix, dans l'unité, dans l'un, n'est-ce pas? Eh bien, au lieu d'aller là, hop, il va vers le multiple. Il se décompose, il s'éclate. Il va vers le bas. La tendance vers le bas, vers la terre. Eretz, Eretz ira. Eretz Israël, la terre d'Israël. Vous sachez comment on dit dans le langage biblique, c'est-à-dire le langage révélé par Dieu, la terre, Eretz. Bereshit bara, au commencement, Elohim, Dieu, bara créa. Atashamaim, les cieux, ou Atarets, donc Aretz. C'est un Aleph ici. Rèche, là. Vous voyez? Alors, ça c'est normal. Donc quand la terre va dans le sens normal, si vous voulez, elle est en puissance à l'ascension. Vous voyez? Elle est en puissance à la réception, à l'accueil, à l'unité. Elle est en puissance d'être orientée vers le don. Mais à partir du moment où il y a le péché originel, il y a une inversion qui se fait, vous voyez? C'est ça qui est extraordinaire. Yetzer hara. La tendance, le mauvais penchant. Vous voyez, vers une terre inversée. On marche, la tête marche sur la tête. Mais la terre marche sur la tête. C'est-à-dire les pieds. Tu sais, c'est pénible. C'est pour ça qu'il y a des tas de positions de yoga très amusantes. Parce que quand ça va mal, j'allais dire, eh ben les yogis disent, mets-toi la tête en bas. et fais le plancher. Tu peux t'aider du mur, si tu veux. Et au bout d'un certain temps, ça y est, tu vas te retrouver dans l'unité, tu vois. C'est marrant comme tout, cette intuition, que dans la position normale, puis en plus c'est pas vrai, parce qu'évidemment que ça va pas, c'est pas du côté du corps que la Terre s'est inversée, c'est du côté de l'esprit que la Terre s'est inversée. C'est du côté spirituel. Yetzera, on a cet héritage d'Adam, on a le mauvais penchant. Vous vous en rappellerez, hein, culture générale, Yetzera. Ça fait bizarre, hein, ça fait chinois, hein, mais Yetzera. N'empêche que vous vous en rappellerez, c'est super. Voilà. Eh bien, à cause de Yetzera, il y a des tas de choses qui font que on est source de division, on est source d'éclatement, on est source de. On est mal, quoi. Enfin, je veux dire, on n'est pas dans l'unité. On n'est pas dans l'unité avec soi-même, on n'est pas dans l'unité avec son prochain, on n'est pas dans l'unité avec le monde, on n'est pas en unité avec le Créateur, on n'est pas en unité avec les processions trinitaires, on n'est pas en unité entre. Vous voyez, toute cette unité qui n'est plus là. Et comme on est dans ce qu'on appelle la potentialité. On pourrait, on devrait, mais on ne s'actue pas, vous voyez, on ne va pas vers l'unité, on n'est pas dans l'unité. Il y a un Yetzera. Et au lieu que la potentialité qui normalement devrait nous faire accéder à cette aspiration à l'unité, de l'éclatement de soi, de l'éclatement du monde, au lieu d'aller vers cette unité, vous voyez, une manière très, très amusante de regarder le problème de l'un en théologie, hein, eh ben, c'est que le péché originel nous fait passer de cette multiplicité qui est une. Vous voyez? Cette espèce d'éclatement intérieur, ces potentialités merveilleuses qui sont les nôtres, nous fait aller vers une multiplicité encore pire. Un éclatement encore multiplié, vous voyez. C'est ce qu'on va appeler justement le mal. Il y a de la souffrance. Il y a de la souffrance. Je n'ai pas besoin du péché originel pour expliquer la souffrance. Il y a de la souffrance, parce que la souffrance vient justement du manque d'unité. Donc il y a de la souffrance. Pourquoi? Parce qu'il y a une liberté. Cette liberté qui permet. La liberté, c'est quoi? C'est la conquête de l'unité. C'est les retrouvailles avec l'un. Le toucher de l'un ne suffit pas. Il faut s'unir à l'un et se retrouver dans l'unité, dans l'un, par l'unification. Ça, c'est des choses qui sont évidentes pour nous. Elles sont très faciles à comprendre. C'est pour ça que quand on recherche son unité intérieure, qui est-ce qui n'aspire pas à ça? Qui est-ce qui n'aspire pas à ça? Regardez, par exemple, on constate, les stoïciens remarquaient ça, les philosophes, mais les chrétiens aussi, je veux dire, ils constatent ça, qu'on voudrait être un saint, qu'on voudrait être un sage, qu'on voudrait être. Avoir les vertus, qu'on voudrait avoir cette transparence, cette pureté, cet élan, ce don parfait, cette capacité d'accueil, cette compréhension, ce fait qu'on juge personne, qu'on rejette personne, qu'il y ait la miséricorde, la justice, la vérité, tout ensemble. Qu'est-ce qui n'aspire pas à ça? On le sait très bien. Et puis en même temps, on s'aperçoit que. On bute, on fait une gaffe, on fait un geste hasardeux, on s'en rendait pas compte et paf! Ça éloigne, ça vexe, ça blesse, hein, ça divise. C'est ça qui est très très, très extraordinaire. Vous voyez? Cette tendance, ce mauvais penchant. Vous voyez? Bon, on salue les nouveaux arrivants, je vois que pas. L'Assemblée parisienne a plusieurs représentants et c'est très bien. C'est bien, si Paris débarque, nous n'attendons plus que Rome. Bon. Alors, il y a aussi, d'où tu viens, toi? De Besançon, vous voyez, là, quand même, vous venez de Toulon. De Toulon, Toulon, Besançon. Tu viens de Nice?
Non,
Montpellier. C'est bien. Tu viens de Rome? Tu viens de Rodez, c'est ça? De Rodez. Ah, quand même. Ah, vous venez d'Albi. On vient qu'il y a, hein, il y a quand même. Oui. Moi, je viens des Gorges du Verdon. Voilà. Tu viens d'où, toi? Ah, de la Réunion. Ben, quand même, ça. Hein? Bon. Alors, le Saint-Père, c'est très. Eh, c'est sympa parce que, bon, de toute façon, ça, c'est sympa parce que. Vous voyez, on vient de différents lieux et on trouve notre unité dans la recherche de l'un. C'est ce qui est très bien. Alors, eux, ils se rencontrent, ils habitent Paris, mais ils ne se rencontrent qu'ici. Bon, donc le mauvais penchant fait qu'on a quelque chose d'éclaté, ce qu'on remarque par exemple les épîtres en disant la chair, ce que désire l'esprit, il n'arrive pas à le faire, et ce qu'il ne veut pas, la chair le fait quand même. La chair va dans le sens c'est un sens différent de l'esprit. En nous, il y a une division curieuse, le mauvais penchant. Par exemple, même pour les chrétiens, remarquez bien, les chrétiens, vous le savez, à partir du moment où ils ont rencontré le Christ, le Christ a pénétré à l'intérieur d'eux, par la grâce, par les sacrements, à partir du moment où il y a eu une blessure au couteau, c'est un couteau très spécial, une blessure au couteau, non pas dans leur corps, mais dans leur âme, à l'intérieur de leur chair. C'est leur âme qui est blessée au couteau. Il y a une ouverture qui s'est faite, une déchirure qui s'est faite au couteau par le baptême. Et cette déchirure faite au couteau dans notre âme laisse passer la présence, une présence réelle, une présence personnelle, une présence vivifiante, potentielle, libre de Jésus, de l'intérieur. De l'intérieur, Jésus peut jaillir de l'intérieur et inonder progressivement mon intériorité et ma chair. Et on sait très bien qu'à partir du moment où il y a eu cette espèce de déchirure au couteau, le couteau du baptême, l'arme tranchante, ce couteau que Abraham a pris pour couper en deux les oiseaux, vous savez, qui sont là sur l'autel du premier sacrifice, qui sont faits, on le coupe en deux. Et il y a le feu qui brûle le corps de Jésus dans la résurrection, qui flambe en nous. Voyez ? Et ça, cette présence de Jésus au fond de nous, qui est une présence physique, une présence réelle. Quand je dis physique, ça veut dire réel, hein, faut pas dire physique. Alors à ce moment-là, normalement, cette tendance, ce mauvais penchant, le Yetzerara, il est vaincu. Il est vaincu, il n'y a plus le Yetzerara, normalement, c'est terminé. Vous voyez, si on a une tendance, j'allais dire par exemple, à voler, une tendance à mentir, une tendance à se mettre en colère, toutes ces tendances-là, ces tendances, dans la mesure où elles sont enracinées dans l'esprit, et dans le lien qu'il y a entre l'esprit et le corps, cette tendance-là, par le baptême, dès lors que je me prends le visage de Jésus intérieurement en moi, terminé. Cette division n'existe plus. Cette tendance n'existe plus. Vous voyez cette différence formidable entre l'Église une, sainte, catholique, apostolique. Elle est une. Vous voyez, avant d'être sainte, elle est une. Avant d'être catholique, elle est sainte et une. Avant d'être apostolique, elle est catholique, sainte et une. Il faut réfléchir à ça. Ça vient d'où, cette espèce d'unité? Il n'y a pas de sainteté sans l'unité, sans l'un. C'est pas vrai. Il n'y a pas de catholicité sans la sainteté de l'un. Et il n'y a pas d'apostolicité sans cette catholicité de la sainteté de l'un. Qu'est-ce que c'est que ce « un » ? Qu'est-ce que là ? Ah, toujours le professeur de philosophie, toujours là, en train de se demander comment il va poser la question. Comment se reposer tout le temps la question. C'est la chose la plus importante dans la recherche de la vérité, c'est d'interroger. N'oubliez jamais ça. C'est l'interrogation qui fait 99% de la découverte de la vérité. 99%. Au moins. Parce qu'après, toutes les élucubrations pour expliquer, c'est... Si tu pisses sur un chat, ça donne le même résultat. Je veux dire, c'est pareil. S'il y a quelque chose qui... La manière d'interroger, il faut interroger, il faut viser, tac, juste, sur la manière de... Qu'est-ce que c'est que là? C'est très important cette histoire d'un. Le Christ, donc je reprends, pourquoi est-ce que l'Église, c'est-à-dire le corps spirituel, le corps mystique qui est nôtre, notre chair, lorsqu'elle est, voyez, lorsqu'elle a retrouvé cette unité avec le ciel, avec le corps et avec l'esprit du Christ, qui lui est un, dans la résurrection, et qu'il inscrit dans cette déchirure de l'âme, cette unité est prête à m'envahir. Dès que je prononce le nom de Jésus, et que je rends présent par la foi, que je rends actif par la foi, cette présence de Jésus, voyez, dans le point de vue de ma chair, je vous rappelle que la chair, c'est pas le corps, hein, la chair, c'est l'âme. Contrairement à ce qu'on pense, n'est-ce pas? La chair, c'est l'âme qui se soude son corps de l'intérieur. Vous voyez? Supposez que ça ici, là, parce que vous voyez mon corps, que vous voyez là, supposez que ce soit ma chair, que ce soit mon âme, n'est-ce pas? Vous voyez mon corps. Bon, oubliez que c'est mon corps, je vous explique, voilà, ça c'est pas mon corps, c'est mon âme. C'est un dessin que je vous fais. C'est parce que j'arrive pas à dessiner. Hein. Voilà, ça c'est. Voilà, vous voyez ici une âme. Hein? Et supposez que mon corps soit ici, là, à peu près à un mètre autour, là. Hein? Et bien, je prends mon corps et. Je prends partout, tu vois. Je me colle, mon âme se colle le corps, se soude le corps, pénètre le corps. Vous voyez, comme un buvard se fait pénétrer du. Vous voyez? C'est extraordinaire, ça. Ça, c'est la chair. La chair, c'est l'âme qui se soude son corps. C'est ça la chair. C'est pas la chair, c'est pas le corps. La chair, c'est l'âme. C'est la notion. C'est la notion, j'allais dire biblique. La chair, la notion biblique. Vous voyez, c'est pas du tout le corps. C'est l'âme, mais qui se soude son corps. Bon, pourquoi donc je dis ça? C'est parce que pour reprendre, c'est quand dans notre chair, il y a eu cette déchirure extraordinaire. Si je rends présent dans ma chair, c'est-à-dire dans cette âme qui soude son corps, cette présence réelle, physique de Jésus, le feu qui brûle le Christ dans la résurrection, alors cette division qui est en moi, et qu'on appelle le péché, cette division qui est en moi, cette mauvaise tendance à laquelle mon esprit finit par adhérer, et mon corps suivre, disparaît. Victoire sur le péché. Deux grandes, ça c'est mon petit catéchisme du début du samedi, toujours une petite séance de catéchisme d'abord, donc c'est normal, hein, pour montrer que la philosophie est quelque chose de très important, parce qu'elle vient éclairer notre foi aussi. C'est pour ça qu'on fait de la philosophie, c'est pour comprendre ce que c'est que l'homme, et c'est aussi pour pouvoir vivre de la foi, vivre de la grâce. Donc vous voyez bien que chez les protestants qui ne sont pas dans l'église une, sainte, catholique, ils sont dans l'apostolique, mais sans que ce soit catholique, saint et un, mais ils sont apostoliques, Dieu soit loué. C'est en ce sens qu'on les raccroche quand même dans l'unité. C'est ça l'œcuménisme. Bon, et bien qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que la chair qui est en nous, elle est foutue. De toute façon, l'âme qui se soude le corps ne pourra jamais vaincre cette tendance mauvaise, etc., que nous héritons d'Adam. Jamais. Donc si tu as une tendance que tu tiens de ton père, de tes parents, de tes oncles, etc., de tes actes, de tes vices, etc., va vite voir le Christ. Hein? Ok, va voir le Christ. Le Christ te pardonne. Merveilleux. Pouf, pardonne. Il met son précieux sang, te couvre hein, comme un vêtement, et tu es justifié par la foi. Regardez le chant qu'on chante quelquefois, c'est un chant protestant, torrent d'amour et de grâce. Amour du Sauveur en croix, à ce grand fleuve qui passe, je m'abandonne et je crois. Vous voyez? Et bien à un moment dans le couplet, on dit bien que c'est comment le couplet. On va le retrouver. Mais torrent d'amour et de grâce, hein. Je crois à ton sacrifice. Je crois en ton sacrifice. Là, que personne ne se rappelle. Je crois à ton sacrifice. Du agneau de Dieu. Voilà. Et couvert par ta justice, j'entrerai dans le saint lieu. Voilà, couvert par ta justice. Voilà. Moi, je suis foutu, mais je revais le manteau extérieur qui ne me change pas, qui me change simplement. C'est pour que Dieu ne voit pas que je suis pourri, c'est tout. Mais alors je suis couvert par le manteau de la justice. J'ai la foi, je dis. J'ai la foi, mais du coup j'adhère à Jésus, Jésus vient me couvrir, voilà, c'est extraordinaire, il vient me couvrir, il vient me recouvrir, et du coup, le Père qui me regarde, il dit, tu as l'air couvert, donc il a l'air pas mal, il voit pas l'intérieur. Mais c'est authentique, c'est pas, c'est dommage, j'aurais dû amener les textes, mais c'est fou, vous comprenez? Je les aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup travailler avec eux dans l'apostolique. N'est-ce pas? Beaucoup. C'est, si vous avez l'occasion de faire de l'apostolat avec des protestants, surtout faites-le. C'est très intéressant, très important, très enrichissant, n'est-ce pas? Bon, eh bien, couvert par ta justice. Eh bien, prenez. Vous voyez, ils n'ont pas du tout le sens juif de la justification, c'est dans la chair, c'est dans l'âme spirituelle se soudant son corps, c'est dans notre unité personnelle que le Christ intervient. Et il n'intervient pas sur l'individu, il intervient sur la personne. Il n'intervient pas sur l'individuation, le caractère individuant de notre personne, mais sur le caractère personnalisant de notre être, voyez ? Sur le caractère substantiel de notre être. C'est dans notre chair que Jésus intervient. Il faut absolument qu'avant de faire un acte de foi, nous ayons trouvé en nous ce lieu où nous touchons l'un. C'est à ça que sert donc notre philosophie. Vous voyez, regardez par exemple, c'est des choses qui ont l'air de rien, n'est-ce pas? Mais je tourne autour et puis après je vous proposerai un acte d'exercice personnel, un petit acte d'exercice de gymnastique spirituelle, n'est-ce pas? Gymnastique métaphysique incarnée, n'est-ce pas? Bon. Il va falloir, parce que si c'est du baratin et qu'on ne peut pas faire d'acte, hein, si ça correspond à rien sur le plan expérimental, nous on fait la philosophie de l'expérience, tant que faire se peut, n'est-ce pas? Oui, voyez, c'est de l'intérieur que le Christ vient. Dans notre chair, dans l'unité de notre corps, de notre âme et de notre esprit, dans notre chair. Il s'est vêtu de notre chair. Le Christ s'est vêtu de notre chair. Et pour nous, le baptême s'inscrit, j'allais dire, au centre même du lien qu'il y a entre l'esprit et le corps. Voilà où s'inscrit le baptême. Le baptême s'inscrit là, une grande déchirure qui s'est inscrite, une marque, et une source. Et quand c'est comme ça, alors à ce moment-là, si vous vivez de ça, si vous êtes libre, vous pouvez ne pas l'utiliser, ça, vous refoulez l'effet du baptême en ne vous en occupant pas. Mais si vous l'actuez en faisant des actes de foi, en faisant oraison, en laissant respirer Jésus dans votre chair, alors à ce moment-là, le Yetzer Hara, le mauvais penchant, disparaît. Hein? Plus vous faites des actes de foi, plus vous, petit à petit, au départ de manière embryonnaire, puis ensuite de manière plus en plus, je vous l'ai déjà dit, il faut une dizaine d'années pour que ce soit totalement victorieux de toutes les dimensions de votre corps, de votre âme et de votre esprit. Mais au départ, au niveau du lien qu'il y a entre le corps et l'esprit, c'est au départ totalement victorieux. Il faut savoir qu'à partir du moment où l'unité de la résurrection s'unit à l'unité de notre corps, notre âme et notre esprit par la foi, une foi ardente, une foi vive, aussitôt, cette tendance vers le péché est supprimée. Elle est vaincue. Alors, vous allez me dire, mais comment ça se fait? Comment ça se fait, moi, cette tendance vers le péché? Ça fait 10 ans que je rame. Pour pas dire 20 ans, pour pas dire 47 ans. 47 ans que je rame. Et puis, au contraire, je vais de caribe en silla, n'est-ce pas? De plus en plus boueux, de plus en plus lamentable. Ça, c'est pas vrai. Faire attention, vous voyez, c'est pas de plus en plus boueux, de plus en plus lamentable. Parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que le péché, et vous voyez la différence qu'il y a entre la position de l'unité avec Dieu dans le dualisme, dans une position un petit peu binaire. Plus j'ai la foi, Luther dit Luther, plus je suis péché. Jésus ne supprime pas en moi la tendance au péché, il l'exacerbe au contraire. La loi me fait encore aller plus vers la transgression de la loi. Et plus j'ai la foi, plus c'est ardent comme contradiction, une dialectique, c'est un tragique de la vie chrétienne. C'est pour ça d'ailleurs qu'on est obligé de mettre des énormes verrous. Que plus on a la foi, plus il faut mettre des énormes verrous, parce que sinon c'est dramatique. Tandis que dans la foi une, sainte, catholique et apostolique, c'est dans votre foi à vous, dans la foi de votre corps à vous, dans votre foi incarnée, dans votre cœur, c'est pas ça du tout. À partir du moment où vous faites oraison, c'est vous ne faites plus le péché. C'est curieux. Vous devenez des saints. Ça transforme vraiment les saints. Et je pensais par exemple à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, elle dit dans sa vie, une chose qui est quand même très intéressante, elle dit, c'est qu'à partir de l'âge de 3 ans, elle n'a plus jamais rien refusé à la volonté de Dieu. Elle n'a plus fait un seul péché. Et vous savez qu'est-ce que le péché qu'elle avait fait à l'âge de 3 ans? Je ne sais pas si vous savez, tu sais toi. Oh, vraiment un péché grave. Hein? Non, mais c'est vrai, c'est un péché ennuyeux. Très ennuyeux, elle l'avoue. Hein? Donc, je ne la salis pas. Sur la table de sa mère, il y avait une épingle à cheveux. Elle a pris l'épingle à cheveux pour se la prendre pour elle. Elle avait 3 ans. Elle a pris l'épingle à cheveux pour se la prendre pour elle. Et elle était tellement mortifiée de ça que quelques minutes après, elle a été rendre à sa maman en demandant pardon d'avoir volé. Enfin, à sa manière. Oui. Et depuis, ça a été fini. Elle n'a plus jamais rien refusé à la volonté de Dieu. La grâce sanctifiante du Christ, de l'intérieur, nous met en dehors de cet esclavage du péché. Alors vous allez me dire, comment ça se fait que j'y arrive pas? Ça veut dire, si j'y arrive pas parce que vous prenez pas le bon bout. J'y arrive pas parce que vous prenez pas le bon bout, c'est tout. On prend pas le bon bout. Bon, faisons la philosophie de l'un. Parce que si je prends la religion de l'extérieur, vous comprenez, en me disant petit à petit, je vais être imbibé, c'est protestant, ça marche pas, Quiconque a fait un petit peu de philosophie, d'ailleurs pour ça qu'on en fait, c'est que tous nos mots, les mots que nous prononçons, les phrases que nous prononçons, les tournures, voyez, tout ce que nous lisons, toutes nos méthodes pédagogiques sont imbibées de protestantisme. Nous pensons protestants. Et que c'est curieux, on pense luthérien. On est luthérien, du point de vue de la pensée. Il y a une conversion de notre intelligence, parce que sans notre intelligence, il est impossible de trouver en nous le point de vue de l'un. Et c'est dans le point de vue de l'un que nous actuons la présence vivante et sacramentelle du Christ rédempteur. Et petit à petit, effectivement, on s'aperçoit que à partir du moment où on vit du point de vue spirituel et incarné, c'est-à-dire de l'intérieur, de la présence du Christ, c'est Jésus vraiment. C'est son corps, c'est son visage, c'est son nom, c'est sa présence. C'est son humanité, c'est lui. Vous voyez, je ne vais pas faire oraison en disant « Ah, oh, j'ai oraison, l'intimité divine, l'intimité divine, l'intimité divine. Oh. » Et pof, tu tombes dans la soupe. C'est condamné par l'Église, quiétisme. Il faut qu'il y ait Jésus. Il n'y a que Jésus. Et c'est Jésus, vous voyez, c'est pas Jésus dans les terres. Hein. C'est pas Jésus en disant à Jésus. Non, non, c'est Jésus là, qui ressuscite dans notre chair. Qui. Alors, il prend possession de nous. Il prend possession de nous. Le vin se mélange à l'eau. C'est très extraordinaire, ça. Et il faut qu'il y ait ces respirations théologales de l'intérieur de notre chair. Alors à ce moment-là, je tiens à vous dire que si nous faisons cette oraison tous les jours, pour réactualiser la présence théologale, sacramentelle, surnaturelle et réelle, et donc de l'humanité et de la divinité du Christ, du centre même de notre unité de corps, d'âme et d'esprit, alors à ce moment-là, je tiens à vous dire qu'il n'y a plus de péché. Le péché est vaincu. Alors, il y a un dérapage. Ah bah oui, pendant 3 heures, j'ai arrêté d'être resté uni à Dieu. Il y a eu une petite, ça c'est notre sujet du lundi, la tentation. Donc, une petite évocation qui vient dans notre imaginaire ou dans notre pensée, ou un doute qui intervient. Et alors, à ce moment-là, effectivement, mais si je reviens au Christ, c'est terminé, je veux dire. Ah, vous allez me dire, il y a des attitudes compulsives. Bon, parce que il y a tout le problème de la culpabilité, là je soulève tout un gros problème, hein. Un très gros problème, la compulsion. D'accord, spirituellement, mon corps obéit à mon esprit, Jésus est là. Et puis, je résiste, c'est Jésus, et puis pff, je tombe dans la soupe quand même. Enfin, pour être poli, hein. Donc, je tombe dans... Bon, pour être bien élevé, bon. Mais vous savez à quel point je suis bien élevé. Donc, alors, mais oui, mais on a des attitudes compulsives. Alors, faut savoir ça. Rappelez-vous toujours ça, parce que ça ne permet de pas se juger soi-même, ni juger son prochain. C'est quoi une attitude compulsive? C'est que si vous avez... Un jour, il faudra qu'on fasse ça, d'ailleurs, ce serait très intéressant. Et on le fera peut-être, d'ailleurs, assez prochainement. On détaillera ça, ce que je vous dis tout de suite, comme un principe, retenez-le, comme tête de chapitre de quelque chose sur lequel il faut réfléchir et qu'il faut savoir que ça existe. Je prends un exemple. Quelqu'un qui est kleptomane. Vous voyez ce que c'est qu'un kleptomane? Un kleptomane, c'est quelqu'un donc, qui va dans les magasins, supermarchés, se balade avec le truc. Moi, j'en ai connu une fois une vraiment champion, hein, kleptomanie, vraiment. Et puis, tu passes ici, et puis, elle veut pas voler. Hein, elle veut pas, elle est chrétienne, elle veut pas voler. Elle veut pas piquer. Elle ne veut pas. C'est les... Bon, tu dis, ah, tiens, d'un seul coup, évidemment. chocolat, aux noisettes, au lait et tout. Hop! Toc, elle prend un truc, toc, hop, puis après tout, bon, hop, et elle continue avec sa petite chose. Elle arrive à la caisse, elle se dit, merde, j'ai encore piqué des trucs. Elle voulait pas. Une attitude compulsive, elle voulait pas. Toc, toc. L'attitude compulsive, c'est quelque chose qui vient d'où? Elle vient de... non pas du Yetzerara, mais d'une division qu'il y a entre la conscience d'amour et la conscience de raison, et la conscience sensible. Un jour on verra ça, ces mécanismes entre la conscience d'amour, la conscience sensible, la conscience de raison. soit entre l'âge de 3 et 6 ans, donc avant l'apparition de la conscience de raison chez un gosse. Un gosse fait une petite bêtise, justement, tiens, la petite épingle sur la table. Bon. Dit, oh, je t'ai donné. Si la maman dit, oh, oh, Todd, c'est bien, tu me l'as rendu, c'est bien, faudra pas recommencer. Pas plus, ça va. Monsieur dit, oh, c'est pas bien, tu m'as volé l'épingle. Oh, que j'ai pas bien ça. Oh, le bébé. Attends, je vais réveiller le bébé. Non, non, Léon trouve que je crie trop fort pour le bébé. Justement, c'est ce que je dis, oui. Là, oh, que c'est pas bien ça. Ou le petit garçon qui a fait tomber une assiette, tu comprends? Ah, tu as tombé l'assiette. Ou alors il a fait popo sur le tapis. À 4 ans, il a fait popo sur le tapis. Et popo tapis. Popo tapis. Mais il y en a marre, docteur, bam, non seulement il demande pardon, il dit j'ai fait poser un tapis, mais en plus, donc déjà il s'humilie, il demande pardon, etc. Mais en plus, il prend une fessée en plus. Alors à ce moment-là, ça, entre l'âge des 3 et 6 ans, si on a des choses comme ça, c'est-à-dire des corrections excessives, vous voyez, qui plongent dans l'angoisse parce que ça va pas, vous voyez, c'est plus de l'autorité à ce moment-là, c'est une réaction. Alors à ce moment-là, ça crée dans l'enfant, jusque dans l'âge adulte, des attitudes compulsives. Parmi les attitudes compulsives, bon, et sur les futurs éducateurs, je tiens à vous dire, faites attention entre l'âge de 3 et 6 ans, s'il fait pipi au lit par exemple. Le petit bébé qui fait pipi au lit jusqu'à l'âge de 6 ans, bon, c'est bien, mais alors s'il voit que sa mère est désespérée, ah, t'as encore fait pipi au lit, c'est pas bien, etc. Qui en rajoute, ben, attention, alors là, le pauvre le plaint, parce qu'il va voir, il va se tirer des attitudes compulsives par rapport à ce qui sort de son. Eh oui, tout à fait, jusqu'à très tard. Hein. Il ne veut pas, il n'en veut pas. Mais le péché, c'est quoi? C'est le fait de mettre son adhésion spirituelle, vous voyez, à une tendance qui relève du Yetzirara. Et une obéissance corporelle et spirituelle. Eh bien, il n'y a pas d'obéissance corporelle et spirituelle. Dans l'attitude compulsive, c'est uniquement, vous voyez, quelque chose qui est immaîtrisable, qui vient d'une blessure psychique et qui touche la relation entre la conscience sensible, la conscience de raison et la conscience d'amour. Donc, vous voyez, ça, c'est des choses très importantes à comprendre, que c'est le petit bémol qui fait comprendre que le Christ vraiment nous donne la victoire sur le péché, sur toutes sortes de choses, qu'on peut respecter tous les commandements sans exception, voyez, sans jamais tomber dans le péché, ça c'est absolument clair, bon, hormis certainement les attitudes compulsives, mais l'attitude compulsive ne rentre pas dans la rubrique du péché, ça rentre dans la rubrique d'une épreuve. Qu'il faut assumer en toute humilité. Et une fois qu'on a compris le pourquoi de cette épreuve, par la connaissance de soi, comme dit saint Augustin, hein, c'est-à-dire on voit où s'est trouvée la rupture qui est à l'origine de cette attitude compulsive, alors à ce moment-là, on la présente en s'offrant pour qu'éventuellement, il y ait la délivrance, il y ait la prière du prochain, il y ait la prière de l'Église, il y a la prière, vous voyez, de guérison. Il y a la prière de guérison. C'est bien une prière de guérison de l'Église ici, et puis aussi de la délivrance par rapport à l'infiltration, parce que dans le point de vue psychique compulsif, évidemment, les puissances intermédiaires, les fréquences métapsychiques, s'introduisent comme qui rigole. Ouais, mais c'est évident, ça. Donc, vous voyez, mais c'est sûr que la présence de Jésus au fond de nous nous met en dehors du péché. À condition, bien entendu, qu'on fasse aux raisons. Vous voyez, que tous les jours, qu'on vive de l'état de grâce. Évidemment, si on ne vit plus des sacrements. Regardez, par exemple, le péché originel. J'y pensais cette nuit, vous voyez, c'est tout frais dans ma tête. Yetzirah donne une tendance à la terre, une tendance inversée à la terre. C'est une tendance, le mauvais penchant. en théologie romaine, catholique, enfin chez les pères de l'Église, on appelle ça le foyer, le fomes peccati.
Ah,
en latin, c'est peut-être mieux. Pas sûr, hein, pas sûr. Le fomes, le foyer peccati. Le foyer du péché. La concupiscence. Oui. Fomes peccati. Yetzer hara, je préfère Yetzer hara, c'est plus sympa. C'est plus sympa, puis Yetzer hara, c'est évident. Le mauvais penchant. Bon. C'est l'importance de notre quête sur la recherche de là. Et pourquoi est-ce que, donc, nous avons tellement de mal à trouver cette unité avec Dieu, cette unité avec la grâce, cette unité avec le Christ, et cette victoire sur la division qu'opère le péché. Eh bien, en partie, ça n'explique pas tout, hein, mais en partie, ça vient, vous le savez, du fait qu'on ne rentre pas dans les mitzvot, c'est-à-dire dans les 10 commandements de Dieu, et en particulier du point de vue de l'adoration. Le premier commandement de Dieu, donc tu adoreras ton Dieu, tu l'adoreras, c'est-à-dire tu seras un avec lui. Tu auras pour son nom une présence digne de lui, et enfin tu le sanctifieras, c'est-à-dire tu le magnifieras en toi. Voilà les 3 premiers commandements. Et à travers cela, eh bien, tu le reconnaîtras à travers l'autorité paternelle. À travers cela, eh bien, tu vivras, tu respecteras la vie. Voilà pour le 5e commandement. À travers ça, tu deviendras contemplation et lumière. Voilà pour le 6e commandement. À travers ça, tu sortiras du mensonge. Tu porteras le vrai témoignage de l'unité. Voilà pour le 8e commandement. Et du coup, tu ne rentreras pas dans la jalousie, la division et l'envie. Voilà pour le 9e et 10e commandement. Il faut commencer par le point de vue donc de l'adoration. Mais l'adoration, lorsqu'il rassemble toutes les puissances spirituelles de l'homme, c'est conditionné par la découverte de l'un. L'adoration profondément, c'est certainement le point de vue du jugement d'existence et puis de la prise de conscience de notre dépendance vis-à-vis de l'être premier. On est donc d'accord là-dessus. Mais plus profondément, si il faut que notre adoration soit religieuse, pas seulement métaphysique, mais aussi religieuse, alors à ce moment-là, il faut découvrir l'un. Vous voyez, parce que le point de vue de l'être, comme je vous ai déjà expliqué plusieurs fois, faites l'adoration métaphysique. Vous touchez, vous faites un jugement d'existence. Comme vous constatez, vous touchez le point de vue du jugement d'existence par les sens externes. Donc, vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui ne vient pas faire péter le protestantisme encore. Quand je dis le protestantisme, l'ontologisme. Vous voyez? Si vous êtes philosophe, vous direz ontologisme. Si vous êtes en théologie, vous direz Luther. Ça reste extérieur. Vous touchez par le point de vue des sens externes, le point de vue de l'être. Et vous voyez que vous êtes sous la dépendance de la créateur de Dieu. Vous ne touchez pas là. Votre intelligence, votre cœur, votre âme, votre corps ne sont pas saisis par l'un. Pour faire l'adoration religieuse, qui est celle du premier commandement, parce que c'est le premier commandement, c'est l'adoration religieuse. C'est pas l'adoration métaphysique. Il faut que le toucher que vous faites dans votre intelligence se fait aussi par votre cœur et aussi par votre corps. Et donc, il peut se faire que de l'intérieur de votre chair. Et ça se fait par le point de vue de là. Et si vous repérez en vous le point de vue de là, à ce moment-là, vous repérez le point de vue spirituel où vous pouvez adorer corps, âme et esprit. Ce n'est pas seulement métaphysique. Et peut-être qu'aujourd'hui, c'est extrêmement important d'apprendre à faire un acte d'adoration à partir non seulement du point de vue de l'être, mais aussi à partir du point de vue de l'âme. Parce que c'est peut-être ça, qui va faire sauter l'obstacle principal, voyez, à ce fait qu'on rejoint la grâce, on rejoint la vérité, on rejoint notre corps, on rejoint notre rédemption, on rejoint notre sainteté, à partir de l'intérieur même du corps. Vous voyez? Bon, c'est ce que je pense être très important. Ne pas appréhender le point de vue du corps et de la personne à partir de l'extérieur, même si les sens externes ont un rôle très important. Nous ne sommes pas qu'intelligence. Nous sommes intelligence, oui. Nous sommes amour. Nous avons un cœur humain. Et nous sommes également lumière éternelle impressa. Lumen impressa in animat corpore. Primordialis. Nous sommes les trois. Nous sommes essence, image et ressemblance de Dieu. Nous sommes intelligence, nous sommes amour. Les trois. Et donc, l'acte d'adoration par lequel nous prenons en main notre être et tout ce que notre être voulait unifier dans une unité spirituelle, corps, âme et esprit, il faut qu'on puisse toucher en nous l'un. Sinon, c'est ce point de vue de l'un qui est blessé par la tendance vers la multiplicité, le fomes peccati, c'est de cet un que doit jaillir, si je puis dire, la présence sacramentelle, la présence baptismale, la présence théologale, la présence de la résurrection du Christ. Et alors à ce moment-là, si on fait ces exercices, je tiens à vous dire que c'est terminé avec le péché. C'est terminé avec le péché en ce sens que c'est fini. C'est-à-dire à partir du moment où vous faites oraison tous les jours, à partir du moment où vous vivez en état de grâce, certes vous aurez des petits dérapages de temps en temps à cause du point de vue des attitudes compulsives, voyez, mais du point de vue du péché, il n'y en aura plus. Et au fur et à mesure, et non seulement il n'y en aura plus, mais en plus ce sera remplacé par une unification, c'est-à-dire un passage de cette unité de votre corps avec le Christ à l'unité avec l'ensemble du corps mystique. Et voilà ce que c'est que l'Église une, sainte, catholique et apostolique. C'est l'ensemble des gens qui ont trouvé leur unité, et cette unité déborde jusque dans le corps mystique. C'est pour ça qu'on passe ensuite, après l'unité, c'est la sainteté. La sainteté, c'est quand notre corps rayonne cette unité, communique cette unité, voyez, entre l'humanité et le Christ ressuscité, à tous ceux qui sont proches de lui, dans le corps mystique de Jésus. Alors à ce moment-là, quand ça aboutit à la catholicité, c'est-à-dire à l'universalité des baptisés, alors à ce moment-là, il peut y avoir un certain apostolat. De toute façon, vous êtes déjà convaincus que c'est très important la quête sur l'un, sinon oui. La quête de Dieu, la paix de Dieu, dans la quête, boum, dans la quête de l'unité. La paix de Dieu, alors, je te laisse faire parce que moi je suis nul, hein. C'est la tendance, bon, je suis pas mort, hein. Comme vous avez remarqué, on m'en veut, il y a un tas de... Il y a un Toto qui veut m'empêcher de parler. Il me met des trous. C'était le trou que j'ai eu tout à l'heure, vous avez vu, c'était compulsif, hein, c'était pas un péché. Il y a une espèce de pigeon qui m'a fianté dessus, pouf, ça m'a volé. Bon alors. Alors, la paix de Dieu, qu'est-ce que la paix? La paix de Dieu, qu'est-ce que c'est que la paix de Dieu? La paix de Dieu, c'est ce qui, en Dieu, est source d'unité. La paix, c'est ce qui est source d'unité. Ce n'est pas un effet de l'unité, c'est une source d'unité.
Donc, si Dieu donne sa paix,
il donne sa source d'unité.
Donc c'est beaucoup plus profond que l'un.
Oui, mais attention, je suis en philosophie.
Oui,
et en Dieu, il y a bien une source d'unité. Parce qu'il y a, oui, mais ça, on est tout à fait d'accord. Dieu, c'est l'être premier. Une des propriétés de l'être premier, mais on l'avait vu les fois précédentes, c'est pour ça que je veux bien répéter, mais une des propriétés de l'être premier, c'est qu'il est un. C'est une propriété, n'est-ce pas? Mais il est un à cause de quoi? Il est un à cause des relations subsistantes qui sont en lui. Et ces relations ont un ordre d'origine, voyez, un objet et un fondement. Mais en Dieu, il n'y a ni fondement, il n'y a plus qu'un had, c'est-à-dire un ordre d'origine. Et donc, il y a une source à l'unité de subsistance, des quatre relations subsistance qui est en Dieu. Et cette source, c'est le Père. Donc, le Père, voyez, est source. C'est dans le Père que tout est un. Les relations subsistantes, c'est la très sainte, c'est à cause de la très sainte Trinité, c'est à cause des relations de la très sainte Trinité qu'il y a une paix en Dieu. Qu'il y a une paix, pardon, le Père, qu'il y a une paix en Dieu. Et du coup, Dieu est un. Donc Dieu n'est pas un à cause de... Si, il est un en raison de sa subsistance, bien sûr. Il est un en raison de son acte. Il est un en raison de sa subsistance. Il est un en raison de son acte. Il est un en raison de sa nature. Il est un en raison de sa vérité, sa lumière. Il est un en raison de son amour. Vous voyez, et ça c'est sûr, il est un sous tous ces aspects-là. Ça, mais ça c'est quelque chose qui relève du fait qu'il existe réellement. Voyez. Mais sinon, l'un en Dieu vient surtout de l'unité qu'il y a, d'une unité d'origine de toutes ces relations subsistantes. Donc c'est pour ça que quand Plotin, après la théologie chrétienne, arrive, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois, ça. Eh bien, il dit, il catapulte Platon, il dit, mais non, un, c'est une hypostase de l'être premier, et du nous, c'est plus haut. N'est-ce pas? En fait, il utilise la théologie chrétienne, mais en la mettant entre parenthèses. En parlant de l'un, sans regarder la source de l'un à l'intérieur de l'être premier. Ça, c'est un autre problème. Je m'excuse, on en avait vu ça la fois dernière. Donc ça, je m'excuse. Ça, c'est de la pure théologie. Maintenant, sur le plan pratique, la paix. La paix de Dieu, c'est pour nous. La pax. La paix. La paix, c'est cette source d'unité. C'est quelque chose d'extraordinaire. Seigneur Jésus-Christ, rappelez-vous toujours cette prière extraordinaire à la messe. Tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix. La paix. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite. Ah, vous voyez ça, c'est extraordinaire. Il y a trois fois paix et une fois unité. Seigneur, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix. C'est quoi la paix? La paix, c'est la source d'unité. Je vous laisse la paix. La paix, au fond, c'est la source de l'un. Je vous laisse la source de l'un. Je vous laisse la source de l'un. C'est ce qui est le trésor de la très sainte Trinité. C'est quoi? L'avoir. Nous, on a un pactole considérable, on a un appart, on a une bagnole, on a 8 enfants, alors que l'autre, il en a 4, je veux dire. Formidable, formidable. On a des vertus, etc. On a une réussite sociale, on a des vices et des... Mais quelquefois, c'est un avoir d'avoir des vices, on est vicieux. C'est un avoir, tout ça. C'est des avoirs. Et on y tient, les gardiens, surtout. Hein. Se débarrasser du péché, c'est pas commode. Pourquoi? Parce que c'est un avoir. Même quelquefois la souffrance, au moins on a quelque chose. Mais oui, c'est évident. Alors, la paix. Tandis que, en Dieu, son avoir à lui, son trésor, c'est la paix. C'est l'unité. Oui, c'est l'un. La source d'unité. Eh bien, je vous laisse la paix. C'est le seul trésor de Dieu. Le seul richesse, le seul avoir de Dieu. Le seul avoir du Créateur, le seul avoir de l'être premier, le seul avoir intime de l'être premier, c'est un. Je vous laisse ma paix. Deuxième. Ah, c'est plus seulement la source d'unité dans, en total, absolu, incréé, c'est la source d'unité dans le Christ. La source d'unité dans le Christ, c'est quoi? C'est le Verbe. Donc, la très sainte Trinité nous est donnée. Je vous laisse la paix. Le point de vue de l'unité, de le trésor de Dieu. Je vous laisse ma paix. Ah, c'est le Verbe, c'est la deuxième personne de la très sainte Trinité qui fait l'unité en lui entre l'être, qui est Dieu, l'âme humaine du Christ, son esprit humain, son intelligence, son cœur, sa mémoria de patrie, et son corps. Les quatre sont un. Et c'est le Verbe qui est source de là. Le Verbe est totalement uni aux moindres cellules de son corps. Le Verbe est uni à la moindre vague de son âme, de son intériorité, au moindre rayonnement de sa vision béatifique, au moindre brûlure de son incendie d'amour quasi infini. Il y a une unité totale. Et la source de cette unité, c'est le Verbe de Dieu. Son humanité, son corps, son âme, son esprit, ses yeux, ses ressources externes, toutes ces opérations sont un dans la personne du Verbe. Et cette source d'unité, c'est la paix. Donc je vous laisse la paix. Et Jésus précise, je vous donne ma paix. Ma paix, elle jaillit là. Il faut qu'elle nous envahisse cette paix, cette source du Verbe qui unifie son corps, son âme et son esprit. Du coup, mon corps, mon âme, mon esprit, mon être. Je vous laisse ma paix. Pour que ta volonté s'accomplisse, dit le prêtre, donne-lui, donne-nous toujours cette paix. Alors, voyez, ça c'est à ce moment-là le prêtre, c'est-à-dire nous, hein, ceux qui assistent à la messe, qui disent, il faut que notre corps ressuscite quand il dit ça, quand on assiste à la messe, sinon foutez le camp dehors, ça ne sert à rien que vous soyez là, je veux dire. Il faut que de l'intérieur de votre un, il y ait ce jaillissement. Mais oui, donne-nous toujours cette paix à toute l'Église, à toute la création. Donne-nous toujours cette paix qui unifie corps, âme et esprit de toute humanité. Livrez à cette unité et conduis-nous ascension. Conduis-nous à l'unité parfaite. L'unité parfaite, c'est le Verbe qui s'unit avec la source de paix. Pour réaliser l'unité parfaite qui est l'Esprit Saint. Et il faut le vivre, ça. Quand le prêtre dit ça à la messe, sinon ça ne sert à rien, autant, vous comprenez, autant cracher dans un pot. Il faut, c'est le Verbe s'incarne. Et il faut que ça s'incarne, non pas dans notre audition, notre compréhension, etc. Il faut que ça s'incarne dans l'un en nous, dans ce qui est un en nous. Dans le mystère, pas dans le mystère, dans la réalité de l'un en nous. Vous voyez, dans le point de vue de la spiritualisation du corps, dans ce qu'il y a de plus innocent corporellement et spirituellement en nous, de ce qu'il y a de plus cher en nous, nefesh. C'est dans la nefesh que ça se fait, ça. Le Verbe prend chair, il prend notre chair, et c'est de l'intérieur de la chair, c'est pas de l'extérieur. Vous voyez, c'est fou cette histoire de Luther, c'est fou cette histoire d'anthologisme, qui nous bouffe, qui nous bouffe, qui nous bouffe. La source de paix. Ah, la paix. Ça, c'est très important. Vous voyez? Donc, la paix, vous voyez, c'est quelque chose. Bon, c'est vrai que sans le mystère de la très sainte Trinité, c'est très difficile d'expliquer ce que c'est que la paix. Hein. D'ailleurs, vous lirez le message. Le message du Saint-Père, c'est compulsif. Le message du Saint-Père, c'est pour cette année, vous voyez? Offre le pardon. Reçois la paix. Offre le pardon, pardonne, pardonne. Cette année, pardonne, pardonne. Pardonne, t'as été maladroit, t'as entraîné quelqu'un dans ta chute. Pardonne, pardonne. Pardonne-toi, toi-même, pardonne-lui. Pardonne à Dieu, pardonne à tout, pardonne à la création. Pardonne, pardonne, donne ton pardon, pardonne. Et reçois la paix. Reçois la paix. faudra qu'on fasse de ce message du Saint-Père pour 97 vraiment, que je venais, vraiment la marque, je veux dire, la marque de cette année. Voyez? Bon, continuons. Ou reprenons ce que nous avions vu la dernière fois. 4 heures. Ben alors, nous allons, vous avez été plusieurs à me demander de reprendre ce sur quoi nous terminions la dernière fois, parce que vous trouviez que c'était un petit peu rapide. Je reconnais que c'était très rapide ce que nous avons fait la dernière fois. Nous avons, si vous voulez, on va bien reprendre. On va reprendre, je m'excuse pour ceux que... C'est ardu ce qu'on fait, je suis d'accord, hein, c'est quelque chose de très difficile. Hein. Puisque là, ici, on veut regarder la multiplicité. Pour ceux qui viennent ici en cours de route, je veux bien situer dans quelle partie de la quête de l'un nous nous trouvons, n'est-ce pas ? Dans la quête de l'un, il y a beaucoup de problèmes dans l'un. L'un, on le trouve, on a regardé d'abord tous les éclatements de l'un qui fait qu'on est si perdu pour retrouver l'un à cause de l'intelligence. À cause de l'intelligence. Donc on a regardé tout ça. On a regardé quelques problèmes philosophiques d'histoire de la philosophie, Héraclite, Parménide, Platon et Plotin sur le point de vue de l'un, et on avait regardé un certain nombre de choses sur cette question, sur pour voir comment ça nous éclairait sur l'importance, non seulement sur l'importance, mais sur la réalité du toucher de l'un. Puis nous avons regardé que le point de vue de l'un se regardait se déterminait sur de très nombreux rapports. L'un vient du fait, on ne peut pas toucher le point de vue de l'un, puisqu'on est en métaphysique, si on n'a pas déterminé ce que c'est que la substance, l'ousia. L'ousia subsiste. Nous subsistons. Et donc, il y a une source d'unité. L'être est en acte. Nous existons actuellement. Et donc, il y a une autre source d'unité qui finalise le point de vue de l'être. L'être est individué. L'être est individué, notamment par le point de vue de la matière. Donc la matière individualise et, j'allais dire, notre être est unique. Donc il y a le point de vue donc, de l'individuation. Bon, et c'est ce que je vous ai fait d'ailleurs tout à l'heure. Il y a toutes sortes d'autres points de vue. Donc il y a le point de vue de l'intelligence, nous unit à la vérité, et il y a une source d'unification en nous qui est indivisible. Et c'est cette source, donc, dans l'intelligence qui nous unit à la vérité, qui fait qu'il y a en nous quelque chose d'indivisible, qui éclate à cause des idéologies, ce que nous avions vu en décembre. Bon, du point de vue de l'amour, on s'unit au bien. Et donc, il y a quelque chose en nous d'indivisible du point de vue à cause du cœur, à cause de la volonté. Parce que la volonté et l'amour en nous saisit tout, corps, âme, esprit et être. C'est tout entier qu'on aime, hein, vous le savez bien. Donc, il y a quelque chose d'indivisible dans le point de vue donc, de l'amour, la puissance spirituelle d'amour. La puissance spirituelle d'amour, humaine d'amour, on est donc d'accord. Il y a quelque chose d'un aussi, enfin, pour nous, du point de vue de l'origine. Dans l'origine, la vitalité lumineuse et créatrice de l'être premier et notre unité entre corps, âme et esprit trouve une énergie dans la lumière qui fait qu'on démarre avec l'un. On démarre avec l'un. Donc, nous en étions là, et nous regardions plus précisément cette question de l'origine. Il y a un septième, mais je ne sais plus où est-ce qu'il est. Bon. On va regarder. Et donc, mais je vais aller plus lentement que la dernière fois. Oui ? Je vous en prie. La paix, d'accord. Ah bon.
La paix de Dieu qui surpasse l'intelligence des hommes.
Qui surpasse tout savoir. Oui.
Qui surpasse
tout savoir.
Tout savoir.
Oui. Ben, c'est la paix de Dieu, c'est une parole de l'Écriture d'abord, ça. C'est une parole de la Révélation. La paix de Dieu, c'est la source de son unité dans les processions. Donc il y ait distinction entre la paternité, source du Fils, la filiation, l'origine du Père, la source du Saint-Esprit, l'unité du Père et du Fils et le fait d'être origine dans la source d'unité du Père et du Fils, voilà les quatre relations subsistantes dans la très sainte Trinité. Ces quatre relations subsistantes subsistent dans ce qu'il y a de plus un dans la très sainte Trinité, qui est l'origine suprême de toutes les processions, qui est la première subsistance, la première relation subsistante. Donc c'est le Père et le lieu, mais dire lieu et source, c'est pareil pour la très sainte Trinité, pour Dieu. Donc il est source, et donc il est paix. Le Christ est notre paix. Pourquoi ? Parce qu'il joue le rôle du Père pour nous. Dieu est notre paix.
Ça c'est le sens anagogique, ça. Pas le sens
Donc, la parole que tu viens de dire tout à l'heure, tu sors de l'Écriture, tu comprends bien que déjà la très sainte Trinité est au-delà de notre compréhension humaine, sans l'aide donc de l'esprit de science, d'intelligence et de sagesse. Sans l'Esprit Saint, nous ne pouvons pas accéder à l'assimilation et à la compréhension des relations subsistantes dans la très sainte Trinité. Mais alors, quand il s'agit maintenant de déterminer la source de cette paix, qui est la voie principale de la paternité incréée de Dieu, c'est plus qu'une appropriation, ça dépasse notre intelligence. Ça ne peut que se communiquer à nous par l'assimilation d'une lumière de gloire. Ah ben bien sûr, c'est réel.
C'est ontologique, je
dis. Non, parce que c'est un avoir. C'est un trésor. Mais en Dieu, le trésor de Dieu et son être sont la même chose. Donc, mais c'est pour ça que ça se communique en nous lorsqu'il se communique lui-même dans la lumière de gloire. Alors à ce moment-là, c'est le trésor qui nous est donné. Le royaume des cieux, c'est ça, sous forme de trésor. La plénitude de l'acquisition des fils de Dieu, c'est qu'ils ont la source de la paternité en eux. Ils sont fils avec et source. Et ça, c'est pas ton intelligence qui accepte, c'est ton intelligence qui le reçoit, et c'est l'unité de toi et de toute la Jérusalem céleste qui en a la compréhension. Mais c'est pas ton intelligence isolée. Ton intelligence isolée des autres ne peut pas saisir ça. Tu peux saisir que dans la Jérusalem céleste, dans la lumière de gloire. Ça dépasse le point de vue. Et pourtant, l'intelligence participe, hein, quand même. Bien sûr, hein. Puisque c'est par la vision béatifique que tu reçois ces trésors, ce trésor qui est la paix éternelle, la source de gloire, la source du Verbe, la source du Saint-Esprit, la source de l'unité, de la création et de la très sainte Trinité dans la gloire, la lumière même de gloire.
Ça se communique sous la forme d'un avoir, c'est ça ?
Mais pour nous, le point de vue de l'être est quelque chose qui est substantiel, d'accord, qui relève du métaphysique, mais on le distingue de ce qu'il apporte comme richesse à celui qui est sous la modalité incarnée de l'être comme un homme. Il lui apporte l'un. Il est avec l'être, il y a un ornement intérieur à l'être qu'on appelle l'un. C'est un ornement, mais ce n'est pas un ornement extérieur, comme vous voyez, très important, vous voyez, c'est un ornement intime à l'être. C'est autre chose que l'acte, c'est autre chose que l'ousia. C'est un ornement, c'est un trésor, c'est un revêtement. C'est ce qu'il y a de plus, c'est ce qu'il y a de plus, c'est ce qu'il y a, c'est l'acolyte de l'être. C'est ce qui l'accompagne et qui fait que l'être est vraiment un trésor de l'intérieur de l'être. Vous voyez ? Et pareil pour à l'intérieur de Dieu, quand tu rentres, et c'est quand toute la création est récapitulée dans l'un de la très sainte Trinité, la paix de la lumière de gloire, alors à ce moment-là, on a ce trésor, et pour nous, ce trésor, la source de paix, c'est au-delà de l'intelligence.
C'est au-delà, même au-delà de l'amour, non ?
C'est au-delà du cœur, c'est au-delà de l'intelligence, c'est au-delà du cœur, et pourtant, néanmoins, le cœur et l'intelligence saisissent le point de vue de la paix, puisque c'est ça qui fait leur propre unité, et l'unité avec tous les cœurs, toutes les intelligences, y compris celle de Dieu. Participation, la grâce en elle-même est une participation à la nature divine. La grâce est une participation à la nature de Dieu.
Comment cette grâce
c'est la grâce.
C'est la grâce.
La grâce sanctifie, la grâce. La grâce. Nous, on y participe sous forme de germe, donc potentialité à le recevoir dans la lumière de gloire. Et quand on est dans la lumière de gloire, c'est la gloire. La gloire, c'est bien la voie suprême, le trésor, j'allais dire, en Dieu. Quand tu dis gloire, et paix en Dieu, c'est exactement la même chose. Hein. Alors là, il n'y a aucune différence entre les deux. C'est la gloire, c'est un petit peu au fond la manifestation de l'amour total, victorieux de Dieu surtout. Et il y a, au fond, il y a peut-être quelque chose, la connotation qu'il y a dans le gloire, dans le mot gloire, c'est que c'est plus une manifestation, donc c'est plus beauté, splendeur. Tandis que l'un, c'est ce qui est la beauté, la splendeur et le trésor intérieur. Intérieur, j'allais dire presque que la paix est source de gloire, parce qu'elle se manifeste dans la gloire. La gloire, c'est la manifestation, tu vois, du trésor.
L'unité de la nature est un attente de l'unité de ce qui est au-delà de la nature, en fait.
L'unité de la nature est image et ressemblance et appel à l'unité suprême, à l'unité éternelle, à l'unité incréée, à l'unité entre, au fond, bon, vous avez évidemment, bien sûr, l'unité entre Dieu et l'unité religieuse, entre Dieu et l'homme et la création. Voilà pour le septième, c'est normal. Bon, donc, on va faire plus lentement, parce que nous sommes des esprits. Si ceux, on vous pouvez, j'ai amené des tableaux pour ceux qui n'ont pas ramené, n'est-ce pas? Allez, c'est reparti, vous en aurez au moins 10 exemplaires chacun, je veux dire. Allez, et on va travailler ça. Il y a plusieurs personnes, dont Marthe, qui m'ont demandé de reprendre cette question très importante. Alors vous direz à Marthe que qu'on est en paix avec elle. Il y a une unité, et il ne s'agit pas pour l'homme, philosophiquement, de trouver un équilibre entre toutes ces dimensions qui sont en lui. Ce n'est pas son but. L'homme n'est pas géré par le psychologue. Le psychologue cherche l'équilibre. L'homme cherche l'un. L'homme cherche l'harmonie et la paix. Et il y a une différence fondamentale entre le point de vue donc de l'équilibre, c'est purement psychologique, c'est animal comme cure. Si vous avez besoin d'une cure parce que vous vous sentez éclaté, névrosé, psychosé, compulsif, et bien à ce moment-là, vous cherchez le psychologue. C'est l'équilibre. Je me sens déséquilibré. Non, le philosophe, lui, et l'homme, la femme aussi, l'enfant de l'homme et le fils de l'homme, cherchent l'un. Ils cherchent une harmonie profonde et une paix. Qu'il n'y ait plus la guerre à l'intérieur et à l'extérieur. Qu'il n'y ait plus cette guerre. Donc, offre le pardon et reçois la paix. Il y a cette dimension en nous. Vous commencez à le savoir, donc en nous il y a le point de vue donc un de la nature, je vais prendre le même ordre que vous parce que sinon, deux, le point de vue, donc nous avons un corps, nous sommes une partie de l'univers, deux, vous voyez je vais exprès plus lentement hein, parce que la dernière fois j'ai conscience d'avoir été à une vitesse exemplaire, n'est-ce pas ? Deux, on va aller très lentement comme si c'était la première fois. Deux, nous sommes génial, chacun de nous est génial. Il peut, non seulement il est une partie de cet univers, mais il a, par rapport à cet univers, une unité de transformation. Il peut perfectionner cet univers. Dans son unité avec l'univers, il le transforme. Il lui donne une splendeur. Il manifeste son unité intérieure d'homme par l'art. Et donc, il glorifie l'humanité par l'art. La gloire, c'est la splendeur de la beauté. Troisièmement, l'homme, en nous, il y a cette dimension-là. Troisièmement, l'homme a une intelligence, c'est une personne. Qu'est-ce qui fait l'unité profonde ? Qu'est-ce qui fait l'unité profonde de l'homme ? C'est l'un. Mais l'homme trouve cette unité profonde parce que l'intelligence assimile dans la lumière le point de vue de l'être, de l'acte et de la substance. Et du coup, il y a dans l'esprit de l'homme, grâce à sa vie contemplative, quelque chose qui donc relève de la possibilité d'être un. Cette source d'actuation, cette source de subsistance, cette source d'unité est liée à l'esprit. Parce que c'est l'intelligence contemplative qui réordonne l'amour, réordonne les puissances, réordonne le corps et la chair, réordonne l'environnement, a une finalité unique qui est, au fond, donc l'amour. Donc l'intelligence, il y a une dimension contemplative en nous, et quelqu'un qui n'est pas contemplatif, c'est la dimension de la personne. Eh bien, il n'y aura jamais d'harmonie en lui. Pas de vie contemplative, eh bien, pas de vie spirituelle. Et du coup, on aura une espèce de recherche de l'équilibre entre le point de vue de la nature en nous, de l'art et des quatre autres dimensions. Le point de vue spirituel n'y étant pas, le point de vue contemplatif n'y étant pas. Donc ici, l'axe est ici. C'est sûr, c'est un axe très important, la vie contemplative, l'intelligence, l'esprit. Il y a la quatrième dimension de l'homme, c'est qu'il a une vie intérieure. Il a une vie intérieure. Il a toute une intériorité. C'est sûr. Hein? On a une vie intérieure. C'est sûr. On n'est pas complètement extra, comment est-ce que vous appelez ça, verti. Hein? Mais on n'est pas non plus totalement intraverti, bien sûr. Alors, il y a le point de vue, donc, si la tendance est plus dans l'introversion, alors vous allez devenir bouddhiste. Voilà, c'est la vie. C'est l'intériorité, l'intériorité, l'intériorité. Et surtout pas l'extériorité, extraverti, le point de vue social. On fait partie d'un corps mystique. On est un avec notre famille, un avec notre communauté, etc. Vous voyez, on vit ensemble et donc il y a des interactions vitales. Vous voyez, cinquièmement, sixièmement, nous sommes liés au Créateur. Nous sommes liés au Créateur, nous sommes liés à l'absolu, nous sommes liés à Dieu, nous sommes liés au point de vue religieux, nous sommes liés à notre origine et à notre fin. Et enfin, il y a en nous un cœur profond, une capacité d'extase, une possibilité d'aimer. Voilà les sept dimensions de l'homme. Il n'y a pas huit dimensions. Si la huitième dimension, c'est la grâce. La grâce. Mais ça, c'est pas naturel, c'est surnaturel. Vous voyez, ça c'est les perles, si vous voulez. Voilà les perles. J'ai sept perles. Le chapelet de ma personne. Et puis, le Christ, lui, il sait très bien que ce chapelet, il roule dans toutes les directions. Hein? Et c'est comme dans le loto, tu vois ces espèces de boules qui vont... Oh, merde, c'est pas le bon chiffre. Alors du coup, le Christ, il prend le glaive, tu vois. Il perce toutes les perles, comme ça. Avec un grand fil extraordinaire, un grand fil, et dans l'ordre en plus. Ce fil, on appelle ça la grâce. C'est surnaturel. Je suis assez content de mon truc là. Bon, je reconnais qu'il y a quelque chose. Oui. D'où le... Bon. Alors... Bon, donc, ici, on regarde la philosophie. Donc, on ne regarde pas le point de vue de la grâce, on regarde le point de vue philosophique. Alors, en raison de quoi ? Il y a, on va lire ligne après ligne, il y a donc, je viens de vous le dire, cette dimension de l'homme. En raison de quoi ? Lorsqu'on cherche la connaissance de soi, lorsqu'on cherche à se connaître, à connaître un autre, quels sont tous les sortes de questions, par exemple tu tombes amoureux de quelqu'un, quelles sont toutes les sortes de questions qui vont épuiser ta recherche de l'autre, la recherche de la personne, parce que ou bien tu te recherches toi-même quand tu tombes amoureux, ou bien c'est l'autre que tu aimes. Alors à ce moment-là, il y a une quête de la personne. Quelles sont les interrogations que tu te poses? Alors tu cherches à savoir, voyez ici vous avez elle fait partie du monde, elle fait partie de mon monde, cette personne-là. En quoi elle est faite? Tu essaies de découvrir que c'est pas seulement l'extériorité de sa nature qui t'intéresse, mais c'est l'intériorité de sa nature qui t'intéresse. Si tu es amoureux, par exemple, tu cherches la signification sponsale de son corps. La signification sponsale de son corps. En quoi est fait l'homme? L'homme est une nature qui est fait de chair et de sang. C'est-à-dire, il est fait de la signification sponsale intérieure de son corps. Voilà avec quoi nous sommes fabriqués. Nous sommes fabriqués avec un phénomène de lumière qui fait le revêtement intérieur du corps. Et c'est ça, la nature du corps. Alors, tu te poses la question, tu dis, mais tiens, tu essaies de voir qu'est-ce qui fait ça, d'où ça vient sa beauté, d'où ça vient sa splendeur, d'où ça vient cette origine, d'où, vous voyez, ça, c'est il y a quelque chose de génial, d'unique dans la personne que tu aimes. Il y a quelque chose de beau. Cette beauté a une source dans une cause efficiente. Et cette cause efficiente, c'est le point de vue génial, unique en elle, sa capacité de transformer son environnement par la lumière et la beauté, la splendeur. Et tu cherches de voir quelle est, j'allais dire, la marque de son charisme, si vous voulez, intérieur. C'est sûr. Vous cherchez et vous posez toutes sortes de questions de ce genre, voyez ? Poser tout un ensemble de questions. Je passe rapidement parce que ce n'est pas notre sujet. C'est à cause de ça qu'il y a plusieurs études philosophiques sur l'homme. Donc la philosophie de l'art, c'est quelque chose de très particulier que nous n'avons jamais fait. Et c'est très intéressant de faire d'ailleurs, la philosophie de l'art. C'est la philosophie du charisme, c'est la philosophie du génie de chacun d'entre nous. C'est la philosophie de la liberté de transformation de tout ce qui nous entoure dans la splendeur. C'est la philosophie de l'inspiration, c'est la philosophie de l'œuvre, c'est la philosophie du travail, c'est la philosophie, vous voyez, c'est ce par quoi l'homme gagne tout ce qui l'entoure pour lui donner une plus-value, vous voyez, pour lui donner une valeur, pour lui donner une splendeur, pour lui donner une. Pour aller plus loin que Dieu. Parce que là, Dieu n'a pas fait un monde parfait, mais l'homme peut le rendre plus parfait. Grâce à son génie. La condition que ce génie s'enracine dans l'intériorité même de sa personne. Voyez ? Bon, la philosophie première, la métaphysique, c'est ce que nous faisons depuis 3 ans ici. La philosophie politique, la théologie naturelle, c'est la mystique vis-à-vis du Dieu créateur, mais en naturel, ce qui est valable pour les musulmans, les bouddhistes, les hindouistes, les chrétiens, pour tout le monde. Ce qui est les lois qui font qu'on reste, qu'on peut rentrer en union réel avec Dieu par les voies simplement naturelles. Bon, et enfin, l'éthique. Quelles sont les vertus, les qualités intérieures petit à petit à acquérir pour pouvoir aimer, pour pouvoir rentrer en extase, pour voir que c'est vraiment l'autre qui commande tout, pour pouvoir rentrer dans une obéissance libre à l'autre. Une obéissance totale d'amour. Un don total de soi. Il n'y a plus que l'autre. Victimal, comme on dit. On est brûlé, consumé, broyé par l'amour. Comment est-ce qu'on fait ? Vous voyez, c'est ça, c'est l'éthique. Vous voyez ? Alors, à partir de ce moment-là, vous, évidemment, vous constatez, la première constatation que nous faisons, premier cours de philosophie, la première chose que nous constatons, c'est que les uns ou les autres, ceux qui nous entourent, nos enfants, nos amis, nos ennemis, j'espère qu'on n'en a pas trop, bon, eh bien, ils s'inscrivent plutôt, on a chacun, plutôt dans une de ces dimensions-là. Chacun, nous avons un pli particulier, il y a un pli dominant. Alors, on n'est pas, parce que justement, à cause du yetzer hara, du mauvais penchant, il y a eu des dislocations, vous savez, hein, il y a des petites dislocations, et puis il y a un de ces aspects qui domine en nous. Et c'est très important pour un philosophe et pour chacun d'entre nous de découvrir le pli qui domine. Qu'est-ce qui domine en nous ? Vous voyez ? Est-ce que mon caractère dominant, enfin, mon pli, la dimension qui domine en moi, c'est le point de vue artistique ? Est-ce que c'est la vie contemplative ? Est-ce que c'est la vie intérieure ? Est-ce que c'est la vie en communauté ? Vous voyez, quelqu'un qui est très très fort pour mettre de l'huile dans les rouages, pour faire qu'il y ait la paix entre tout le monde, que tous les goûts soient assortis, qu'il n'y ait jamais, qu'il y ait une bonne cuisine, qu'il y ait des bons repas, parce que c'est ça, qui est, bon, vous voyez ? Ah, il y en a un qui est beaucoup plus religieux, vous beaucoup plus religieux, c'est son pli dominant, il est religieux, il n'y a rien à faire, lui, c'est Dieu, quoi. Voilà. Et il y en a un autre, bon, oh, ben, il est bien dans sa peau. Il est bien dans sa peau, c'est l'écolo, quoi, l'écolo parfait, etc. Oh, pff, C'est l'écologie du corps, c'est l'écologie, c'est la nature qui compte. Vous voyez? Ou alors, bon, alors l'altruisme, le généreux, l'altruisme, remarquez, attention, hein, ça peut aller avec ça. Donc, celui qui aime, celui qui se donne, celui qui est toujours victime, celui qui est une vie d'amour, qui est dans, toujours souriant, et pourtant il n'a rien, parce qu'il a tout donné. C'est l'amour. Et c'est toujours gratuit. Toujours, 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 toujours à son détriment. Il ne cherche pas à... Non, non. À lui, il ne m'aime pas. Il s'en fiche complètement de ça. Il aime, c'est tout. Vous voyez ? Quel est le pli ? On a tous un pli. Et il faut que chacun d'entre nous découvre son pli. Quel est son pli principal ? Quel est ton pli principal ? Est-ce que tu saisis toujours parce que tu vis intérieurement, ce que tu vis intérieurement ? Faire attention, parce que s'il n'y a que ça, hein, c'est-à-dire ici, ça, si tu... Voilà, ça domine ici, voilà, il n'y a que ça. Les autres dimensions, voilà, ici, là, là, hein, bon, là, un peu plus, hein, là, voilà, il n'y a plus que ça. Et bien, tout cet aspect-là, c'est psychique. Alors, c'est dramatique, c'est le tragique, c'est l'angoisse. C'est tout ce qui dépasse. Hein. Tout ce qui dépasse, c'est mon... Alors, il faut couper. Tu coupes la tête ici, et hop, 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 voilà. Tiens, c'est celui-là qui domine maintenant. Vous voyez, il faut qu'on découvre notre pli dominant. Alors, je me suis amusé, ah oui, on va prendre une petite récréation, et puis on va attaquer ensuite le point de vue de l'un, l'éclatement de l'un, dans la septième manifestation de l'un, manifestation de l'origine. Il y a des gens, en effet, alors ici vous avez les sept notes symboliques ou qualités finales, vous voyez cette ligne-là? Pour savoir, pour essayer de repérer par intuition, l'intuition de l'être, comme dit Bergson, n'est-ce pas? Cette intuition. Eh bien, il y a des gens, qu'est-ce que vous voulez? Vous les regardez dans une communauté, vous les regardez dans la famille, vous les regardez vivre, vous les regardez respirer. Eh bien, vous regardez leur visage seulement, voyez? C'est seulement leur visage. Et puis, il y en a, alors là, il faut faire marcher votre intuition, hein, parce que les qualités symboliques, ça relève de la perception artistique. Sur le visage, celui-là, oh, il respire la vie. Celui-là, il respire la vie. Oh, celui-là, il a un visage rayonnant, lumineux. Oh, celui-là, il dégouline de bonté. Dans son visage. Vous voyez, il faut sentir quelqu'un qui est dans un état d'arrêt, qui vous regarde, qui est tranquille, qui n'est pas occupé à quelque chose de particulier. Hein? Il est là, il est en communauté. Ah, celui-là, il déborde de bonté, déborde d'amour. Ah, celui-là, il y a une plénitude qui se dégage de son visage. Vous voyez? Toutes ces qualités, regardez comme c'est différent. J'espère que vous sentez la différence qu'il y a. Mais il y a des gens qui ne sont pas observateurs pour un sou, n'est-ce pas? Ni artiste pour un sou, alors ils ne perçoivent rien du tout ce que je vous dis là. C'est l'intuition, alors on est en plein Bergson là, de l'être. Voilà pourquoi Bergson passionne tellement les gens. Parce que la philosophie de Bergson est une philosophie qui introduit non pas à la multiplicité du temps, mais à l'intériorité de l'instant présent, par la durée. Et il nous fait rentrer dans l'intuition de l'être. Donc, il fait agir ces deux dimensions. Et alors, tu perçois la différence qu'il y a sur un visage, quelqu'un qui rayonne la vie, qui rayonne de lumière, qui dégouline de bonté, qui respire la plénitude. Regardez la différence. Quelqu'un qui respire la vie. Mais ça veut dire qu'il vit dans la nature. La nature humaine, c'est quoi? C'est qu'il y a la vie en lui. Il y a une vie... Il y a débordement de vie, le corps déborde de vie. C'est pas le corps c'est bien dans sa peau, alors ça dégouline de vie, vous comprenez? Si c'est quelqu'un qui est très intérieur, il a une vie intérieure, humaine, je ne parle pas de la vie intérieure, de dire il est labouré par sa psychose, hein. Alors c'est pas une vie intérieure, ça, il est lié aux compulsions, c'est le contraire. C'est pas intérieur, ça. C'est, il est trop lié, dépendant de quelque chose qui lui est extérieur dans la blessure, voyez. Alors, mais si il est intérieur humainement, voyez, c'est-à-dire si intérieurement son âme respire dans l'unité, voyez, dans l'intériorité, dans la dilatation, dans les horizons infinis qui sont dans son intériorité. Alors à ce moment-là, il rayonne. C'est évident. Quelqu'un qui a une vie intérieure rayonne. Son visage rayonne. C'est sûr. C'est évident, ça. On le voit, de toute façon. Bon, et puis, il y a quelqu'un qui va être rempli, vous voyez, d'amour. Alors c'est ça qui est très amusant dans l'amour. C'est quelqu'un qui est rempli d'amour, qui s'immole, quelqu'un qui aime vraiment, c'est il rentre en extase, il s'envisage, il y a quelque chose, alors là, on voit ce que c'est, vous voyez ce que ça veut dire, la plénitude, quand un être, il y a de la plénitude, c'est tout à fait différent du rayonnement de la lumière, c'est évident. Et lorsque quelqu'un vit de Dieu, il est très religieux, il est uni à la source. Alors à ce moment-là, il rayonne de bonté. C'est l'amour qui découline. Vous voyez, c'est plus différent qu'il y a en nous et qui donne une connotation. Vous voyez, alors évidemment, c'est très difficile de déterminer pour nous, chacun d'entre nous, ne déterminez pas vous, quel est votre pli. Déterminez d'abord sur ceux que vous aimez, sur ceux que vous ne jugez pas, sur ceux sur lesquels vous n'avez pas d'a priori. Il ne faut pas juger sur ceux dont vous êtes amoureux, encore que peut-être. Si vous les respectez, oui. Mais sinon, non, regardez bien, et vous allez voir que c'est différent. Et vous allez essayer de déterminer le pli de chacun. Vous pouvez le faire par le point de vue de l'intuition de l'être, voyez. Et puis par toutes sortes de rapprochements. C'est pour ça que donc il y a cette ligne des notes symboliques aux qualités finales. Il est bien évident que si c'est quelqu'un qui est contemplatif, ce qui rayonne de lui, c'est la simplicité. Oh, qu'est-ce que c'est simple. C'est pour ça que je ne dois pas être très contemplatif. Qu'est-ce que c'est simple. Mais c'est parce que vous ne regardez pas assez mon visage. Vous regardez votre embrouillé mini intérieur, vous êtes pris par un psycho. Mais si vous regardiez mon visage, vous verrez comme c'est simple. Comme c'est simple. Ça a l'air si simple. Mais oui, c'est simple, comme il donne la surabondance de sa vie contemplative, mais c'est simple, comme il dit, moi je trouve, c'est bien simple. Pour lui, en tout cas, c'est simple. Et si je suis très uni à lui, je vois que c'est simple. Et puis quand je me retrouve tout seul, je trouve ça compliqué.